Monika Gintersdorfer, une metteuse en scène hors sol.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est une dangereuse, une Monika Gintersdorfer politiquement incorrecte. Notre époque engluée dans l'autocensure appréciera, j'en suis sûre. Parce qu'elle a intégré des bouts d'Atlas, Pérou, Allemagne, Mexique, Côte d'Ivoire. Cette metteuse en scène autrichienne s'affranchit naturellement des frontières, mais aussi des cultures et des disciplines. Avec elle, le théâtre n'est pas un long fleuve cool-cool et le plateau pas à l'abri d'accueillir des artistes internationaux ne jouant pas forcément dans leur catégorie et très souvent inspiré par le coupé décalé. Et moi-même, je ne sais pas très bien dans quoi je m'engage en sol majeur, en tendant le fauteuil à celle qui vit sur des braises pour cause de double création avec son collectif La Fleur. Avoir les chercheurs avec ses danseurs et danseuses d'Afrique de l'Ouest venus tenter leur chance en Europe et El Nueve, ce bar gay qui aura fait les nuits chaudes de Mexico. Je vous souhaite Aquaba, la bienvenue Monika.
Merci, bonjour.
Bonjour. Avec pour commencer un léger dilemme pour vous, un choix si vous voulez, si vous préférez. Est-ce qu'on s'écouterait plutôt DJ Arafat avec Enfant Béni, donc direction la Côte d'Ivoire, ou plutôt Casino Shanghai avec Cuerpos Huecos, je ne sais pas comment on prononce ça, donc direction la techno-pop des années 80 de Mexico?
C'est difficile le choix.
J'espère bien.
Oui. Alors, on va dans le passé. J'ai choisi Casino Shanghai.
Pour quelle raison?
Oui, parce que pour le moment, on fait beaucoup de répétitions sur cette bar El Nueve. Et Henri Donadieu, le créateur, vient d'arriver. C'est un monsieur de plus de 80 ans. Et je suis trop content qu'il est arrivé du Mexique. Et ça, je veux célébrer ça avec cette chanson.
Casino Shanghai dans votre en sol majeur avec, comment vous prononcez Monika? Cuerpos?
Huecos.
Tout simplement. Et tout ça, ça se passe en sol majeur avec une empêcheuse de danser en rond, j'ai nommé Monika Gintersdorfer, qui est à l'affiche en ce moment de deux créations. Des danseurs qui ont des masques, peut-être des masques Covid sur le visage. Ce sont des masques customisée avec plein de paillettes. Et ce sont les danseurs de El Nueve. Alors racontez-nous, Monica, l'histoire de ce lieu à Mexico.
Oui, moi, j'étais au Mexique, j'étais étudiant et par hasard, j'ai connu cet endroit dans la Zona Rosa qui est beaucoup au centre de la ville. Et c'était un bar gay, mais avec une grande diversion. Ça veut dire que les personnes étaient chic, ils étaient extraordinaires. Presque tout le monde voulait se lancer dans l'art. Moi, je suis arrivée là-bas dans l'année 86. Ça veut dire que le bar existait déjà 9 ans. Mais on a dit que les années 86, 87, 88 étaient beaucoup chaudes. Ça veut dire que les gens avaient beaucoup, beaucoup d'envie de célébrer une nouvelle liberté sexuelle qui, en Mexique aussi, les années 70 étaient encore assez répressives. Mais El Nueve, en même temps, il avait cet côté qu'on pouvait rencontrer des personnes extraordinaires avec des artistes, des chanteurs, la télé, glamour. Mais aussi, il aimait beaucoup les nouvelles tendances. Ça veut dire tout ça qui venait de naître, comme le punk en Mexico, le rock latino qui peut-être était interdit dans des autres endroits. Mm-hmm. On trouvait cette mélange incroyable dans cette boîte.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur votre plateau quand on vient voir El Nueve?
Bon, comme El Nueve, il avait un peu une haute programmation. Mardi, cinéma. Mercredi, les petits shows de la Kitsch Company. Jeudi, les concerts. On essaie que les gens, qu'on ne va pas seulement leur raconter l'histoire, mais qu'aussi, ils viennent et ils peuvent danser.
Le public peut venir danser sur scène.
Et qu'il y a aussi une partie discothèque. Mm-hmm. Et qu'après, il y a les shows. Mm-hmm. Mais là, il avait peut-être une show de 15 minutes et tout le reste était dragué, boire, danser. Et nous, on va équilibrer la balance un petit peu différent que peut-être on fait déjà 3-4 petits shows. Et aussi, on a installé des films historiques qu'on pouvait gagner du MUAC, qui est musée contemporain en Mexique, qui ont l'archive de El Nueve. Et nous sommes les premières personnes qui ont le droit d'utiliser cette archive. Et là, on peut voir aussi les performances originales et les personnalités qui étaient dans El Nueve.
Alors, si vous avez envie de vous cultiver, si vous avez aussi envie de rejoindre le plateau au milieu des danseurs, El Nueve, c'est donc à voir jusqu'au 26 mars à la commune d'Aubervilliers, c'est tout près de Paris. Mais avec votre collectif La Fleur, Monica, vous travaillez sur une deuxième création qui va partir en Allemagne, c'est Les Chercheurs. Racontez-nous Les Chercheurs.
Oui, un des membres de La Fleur s'appelle Ordinateur et c'est une légende de danse en Côte d'Ivoire. Il est jeune, mais comme il a commencé super jeune, il a déjà une grande carrière. Et Ordinateur m'a proposé pourquoi on ne fait pas une pièce où il va réunir des autres danseurs, danseuses qui ont un parcours comme lui. Ça veut dire qu'ils ont laissé leur continent pour se chercher, la majorité en France.
Ils viennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest?
Ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, Kinshasa. Et aussi, on a une danseuse des États-Unis qui sera un exemple d'une des collaborations qu'ils ont trouvées quand ils sont venus en Europe.
Et qu'est-ce qui se passe alors sur le plateau avec ces danseurs?
C'est une mélange. On voit leur style de danse et on comprend qu'est-ce que ça veut dire de se chercher. Et c'est aussi un peu un sujet politique parce que j'ai une compagnie transnationale. Ça veut dire que des personnes viennent de 4 différents continents. Et si on est invité, c'est clair que les Européens ou les personnes des États-Unis, facilement, ils peuvent dire oui parce qu'ils savent qu'ils peuvent voyager. Une visa s'est faite dans un jour ou une semaine. Pourtant, le membre africain de la compagnie, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc, la problématique des politiques migratoires, la question de la diversité, tout ça, c'est déjà là, avec une chorégraphie où j'imagine il y a du coupé-décalé. À vous couper le souffle, hein, forcément. Donc, on reviendra d'ailleurs sur cette dimension coupé-décalé de vos créations, Monica Gintersdorfer. C'est à voir, en tout cas, Les Chercheurs, les 30 et 31 mars à Düsseldorf, c'est en Allemagne.
Kodomo jidai no anata no ie no chizu o oshiete kudasai.
Quelle est la carte géographique de votre enfance?
Je suis née à Pérou.
Née au Pérou. Mm-hmm. En 67. Hein?
Oui, mais bien sûr, je ne me rappelle pas. Ça veut dire que je connais seulement les histoires qui se racontent de ça. Ça veut dire mon papa, ma mère, dans cette époque, ils sont des Autrichiens. Mais pour le travail, ils sont allés au Pérou. Et je suis née là-bas. Et même, il y a une petite légende qu'au début, ils ne croyaient pas que je suis leur enfant. Parce que dans l'hôpital, ma maman n'a pas vu tout de suite son bébé. Et quand elle m'a vue, elle a dit « ça, ça ne ressemble pas à notre famille ». Mais après, bon, on a vérifié. Et voilà, c'est ma famille. Après, pour des raisons du travail...
C'était quoi comme travail?
Mon père travaillait pour une compagnie allemande qui construisait pour faire du fer, comme ingénieur.
Donc le Pérou et ensuite?
Ensuite, une année en Autriche, après l'Allemagne et après quand j'ai commencé l'école en Argentine. Et après, ma sœur, ma mère, moi, on est revenus en Allemagne.
Alors quand on vous demande les événements qui vous ont marqué, alors je ne sais pas si c'est dans l'enfance ou plutôt dans l'adolescence, vous répondez le terrorisme allemand des années 70. Rappelez-nous ce qui se passait dans l'Allemagne de ces années-là, Monica.
Bon, en Allemagne, il avait le terrorisme allemand. Et moi, j'étais très petite et partout, il avait les affiches avec les photos des terroristes Bader Meinhof. Et j'avais une petite confusion parce que le mot touriste et terroriste, je ne savais pas le distinguer. Alors je dis, pourquoi tout le monde dit que ces personnes sont tellement dangereuses, pourquoi on les recherche, pourquoi on veut les arrêter? Si on va dans un autre pays, la Belgique, on est des terroristes aussi. Parce que j'ai confusé ça avec le mot touriste et ça m'a vraiment... Mais bien sûr, après, j'ai bien compris. Comme vous le savez, c'est un mouvement très spécial parce que c'est parti d'une attitude de la gauche pour vouloir améliorer et avoir plus d'égalité dans la société et de protester contre des causes, mais qui ça a devenu tellement extrême et violent qu'après, on peut dire que toute l'Allemagne, tout l'État était concentré en recherche des terroristes.
Alors dans ce monde, dans votre monde qui se transforme, sans toujours apporter d'ailleurs les réponses, il y a une voix, apparemment quand vous êtes très jeune, qui va influencer votre regard.
In den Tanz allein, das ist ja also irgendwo, wenn ich wir zusammen ein Stück erarbeiten und ich wirklich versuche zu wissen, also was habe ich denn jetzt zu sagen, jetzt, in dieser...
Pour monter une nouvelle pièce avec la compagnie, on part toujours de la même question. Qu'est-ce que nous voulons exprimer aujourd'hui ?
Konkret in dieser Welt mit allen Problemen, also da wo ich bin, meinen persönlichen, alles was ich höre, was ich sehe.
Au début de notre travail, il y a alors notre vie quotidienne avec tous nos problèmes, avec tout ce qu'on peut voir et entendre.
Ich spreche über uns, über die Leute, ich spreche über...
Je parle de nous, des gens, je parle du monde entier, de notre peur, je parle de notre passé et de notre avenir. La danse contient tant de choses.
Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass jemand also diese Vielfalt von allen Dingen.
Je vise une certaine multitude, pas seulement des techniques de danse. Il faut bien sûr les travailler. Puis, je développe mes propres manières de bouger, de danser. Mais cette multitude réside aussi dans ma compagnie elle-même. Ils sont tous très différents, mi-acteurs, mi-danseurs, et ils ont tous leur propre caractère. Et avec tout cela, on fait peut-être des miracles, ou peut-être des spectacles qui se situent entre la réalité et le miracle.
La voix Ina de la chorégraphe allemande Pina Bausch dans votre ensemble majeur, Monica. Pina Bausch qui a, on le sait, révolutionné le monde de la danse, mais peut-être votre monde à vous aussi.
Oui, Pina Bausch était à Wuppertal. Ça, c'est très proche de la ville où j'ai habité, qui s'appelle Essen. C'est la même région. Et quand j'ai vu pour la première fois une pièce de Pina Bausch, j'étais encore assez jeune et je ne savais pas qui est Pina Bausch. Et la pièce était basée sur Shakespeare, sur Macbeth. Et ma mère a nous expliqué toute la pièce de Shakespeare. Alors, je connaissais l'histoire de ça. Et quand je suis allée, rien de ça que ma mère avait nous raconté, qu'est-ce qui est contenu, s'est passé sur scène. Mais il y avait des hommes et des femmes qui se jetaient dans l'eau, qui sont montés sur des armoires, qui avaient... des petits textes, c'était assez provocant parce que l'eau versait dans le public. Ça veut dire que c'était très loin de ça qu'on a attendu. Et cette différence, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, la tension sur la salle, parce que je pense plus que la moitié du public est parti. Dans ce moment, Pinabao, je n'étais pas encore connue comme ça. Alors là, j'ai trouvé que ça, c'était un monde qui pouvait m'intéresser.
Vous allez faire des études de littérature allemande, puis de cinéma à l'Université de Cologne. À quoi correspond alors, chez vous, ce choix, finalement, de faire du théâtre?
On peut dire que j'étais un peu timide. Et en fait, oui, pour un moment aussi, je voulais être actrice. Mais alors, d'étudier la littérature, c'est comme un peu timide, non? D'abord, parce que j'avais pas un entourage qui faisait des professions comme ça. Et ça veut dire que j'ai fait des études, d'abord un peu en tour. Et après,
vous tourniez autour du pot, comme on dit en français.
Oui, oui. Mais je n'étais pas sûre que moi, je serais capable de faire ça.
Le théâtre, c'est idéal pour les timides?
Ça, c'est une question. Ouf. Bon, je pense après, on n'est plus trop timide.
Mais qu'est-ce qui fait que vous ouvrez la porte de ce monde-là?
Je veux dire que après, je suis partie à Deutsche Schauspielhaus Hamburg et j'étais d'abord assistante de metteur en scène. Et là, on m'a encouragée et petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres pièces.
Vous allez effectivement travailler au Volkstheater de Rostock, puis au, vous l'avez bien dit à l'instant, Schauspielhaus de Hambourg. Et puis, vous allez fonder en 2003, avec un certain Jochen Den, le collectif Recolonisation, si on le dit avec l'accent, et en ces temps de mouvements décoloniaux, ça sonne. C'était quoi le concept de recolonisation?
Comme avant ça, j'ai travaillé dans des grandes institutions. Ça veut dire pour moi, c'est parti très vite et avec des acteurs professionnels dans le théâtre allemand, où je faisais des mises en scène vraiment de pièces, de auteurs. Et dans un certain moment, je pensais que ce système ne marche pas pour moi. Parce que, aussi, en 2002, je suis déjà partie en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à connaître assez des personnes de là-bas et je m'intéressais à qu'est-ce que ça signifie, ce conflit. Il n'y a aucune de la littérature qu'on joue dans les théâtres. À le monde, tu ne vas pas trouver une pièce qui peut représenter ça. Alors, on a dit, ah, peut-être le sujet qui m'intéresse, il n'y a pas de pièces qui sont déjà écrites. On change du système. Et on a fait de petites performances dans l'espace public. Parce que
Côte d'Ivoire ou
en Allemagne d'abord.
En Allemagne.
Mais avec un team mixte, ça veut dire qu'il y avait des personnes du Niger, de la Côte d'Ivoire, des Allemands. C'était des artistes comme des voisins, comme des autres personnes qu'on connaissait. Et ça veut dire que j'ai laissé derrière tout, disons, le professionnalisme du théâtre allemand avec le système d'une première, un public qui réserve ses places pour aller dans la rue et faire ça avec des personnes qui peut-être ont le même intérêt pour le sujet que moi et qui peut-être partagent un peu ce type d'expérience. Les performances étaient courtes. Des fois, c'était des explosions, c'était des ventes de choses illégalement, c'était des combats. Mais dans une année, je pense qu'on a fait plus que 100 performances.
Donc, en dehors du système, on a bien compris, quand on vous demande qui sont les grands noms de votre panthéon personnel, Monika Gintersdorfer, vous me citez Pasolini, Godard, Antonioni, Fassbinder, mais il y a aussi dans votre famille d'élection un certain Christoph Schlingensief, on le prononce comme ça?
Oui.
C'est un metteur en scène qui a disparu assez jeune, hein, à même pas 50 ans, et qui était taxé, pour le dire vite, d'enragé génial. Il a monté notamment 100 ans d'Adolf Hitler, les dernières heures dans le bunker du Führer, ou encore Massacre allemand à la tronçonneuse sur la réunification des deux Allemagnes. Qu'est-ce que vous retenez de son point de vue de metteur en scène qui lui aussi visiblement se démarquait du système, on va dire?
Oui, Christoph Schlingensief, il avait aussi le courage de se confronter dans des situations. Ça veut dire que je l'ai connu personnellement. Il aimait des performances osées. Il était beaucoup dans l'actualité. Les performances venaient très vite. Et il a aussi fait que différents types de personnes peuvent travailler ensemble. Et on peut dire que oui, si on ne connaît pas ces performances ou ces films, peut-être c'est pas tellement facile à s'imaginer. Mais en même temps, si on ne les connaissait pas, peut-être quand on voit un film, on peut avoir peur de lui. Parce que des fois, il y a la terreur, il y a le trash, et c'est politisé.
C'est les ingrédients, ça, vous diriez, de vos créations à vous, le trash, la terreur, la provocation?
Non, parce que par exemple, moi, les genres des films de terreur, je ne connais pas trop. Hein. Mais je pense qu'on aime se confronter et d'être rapide, que ce n'est pas la perfection qu'on cherche. Il a toujours parlé aussi d'une vérité du moment que tu ne peux pas planifier.
Avez-vous le rythme dans la peau?
Avec un petit peu de ce bac que vous aimez, Monica.
Si j'ai un rythme dans la peau? Non.
Est-ce que vous dansez?
Oui.
Vous dansez quoi?
Moi, je danse sur des morceaux que j'ai envie de danser. Je pense que je suis assez improvisée. Ça veut dire que je travaille beaucoup avec des danseurs professionnels. Mais quand même, dans nos répétitions, je ne suis pas vraiment que je dis « Ah, moi, j'arrive à représenter l'authenticité d'un style. » Mais je me lance. Et je pense que je suis beaucoup dans l'improvisation.
Bongo, bongo pour bouger, bongo, bongo, bongo pour bouger, bongo, bongo. On pousse le ventre un peu en avant, on met le cul un peu en arrière, on descend un peu les jambes écartées et puis j'ai les jambes bloquées sur le côté du main. Oh, la danse est la crame, bongo, te bongo, la danse est la crame, bongo, te bongo, la danse est la gag. Ah, abanya, 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 ba, 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 abanya, hey, abanya, hey, abanya, ba, ba, ba. Ma pololi tout le monde allez ma, ma pololi tout le monde allez ma bla ma bla, tu te coupes ma bla ma bla. Aujourd'hui la tira ma bla, ma bla ma bla.
Nous voilà sur la piste de votre création Trio for the Beauty of It, qui a été programmée récemment à la MC 93 de Bobigny en septembre dernier, donc en région parisienne. Donc c'est une performance dansée, vocale en même temps. C'est quoi le concept, Monica?
C'est la rencontre de danseurs ordinateurs de la Côte d'Ivoire, Carlos Martinez du Mexique et de Alex Sifus de New York avec un musicien, Timor Litzenberger, qu'ils échangent ce style. Après, ils font aussi des hybrides, mais d'abord, on veut comprendre chaque style.
Et quel style?
Ça veut dire ordinateur, c'est le coupé décalé. Alex Malandrinon, il est dans le voguing et bien sûr aussi dans la danse contemporaine. Et Carlos Martinez, dans la pièce, il nous explique les concepts de sonidero, que ce sont des différentes danses latinos qui sont dansées et mixées dans la rue avec des grands baffes.
Alors, vous qui n'êtes pas une danseuse professionnelle, comme vous nous l'expliquez, comment vous faites pour diriger ces danseurs qui, eux, sont professionnels dans chacun de leurs styles ?
Je les connais très bien. Ça veut dire que je sais quel type de questions je peux poser.
Par exemple ?
Comme je sais que les spectateurs ne connaissent pas forcément les coupés décalés. Mais moi, je sais que dans les coupés décalés, ça existe beaucoup, beaucoup de concepts de danse. Ça veut dire des mouvements spécifiques qui sont attribués à une certaine chanson ou une certaine mot. Et je les connais. Là, je peux dire à l'ordinateur, ah, je pense que c'est ça la voix. Lui-même, il peut réchanter le concept. On a enregistré sa voix et après, il danse sur sa propre voix. Je donne des tâches et après, je vois comment les différents sujets peuvent se combiner dans la pièce. Mais la maîtrise des styles, ce sont les danseurs qui ont ça.
Alors vous prenez, on l'a entendu, des danseurs d'origine et de cultures différentes avec une oreille coupée décalée. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous intéresse tant finalement dans ce qu'on va appeler le transnational ?
Je pense que j'ai vivé toujours comme ça. Pour moi, ce n'est pas tellement extraordinaire, mais aussi comme dans mon parcours et dans ma vie, j'ai connu des personnes qui venaient de différents pays et j'ai travaillé avec eux parce qu'ils sont des bons performeurs. Ça veut dire que je n'ai jamais choisi quelqu'un parce qu'il faut encore une autre nationalité. Non, je n'ai pas cherché d'être transnationale.
Autre traversée dans votre travail, Monica, avec Der Botschafter, les ambassadeurs en Afrique. Ça, c'est qualifié d'opérette germano-africaine.
Est-ce que, aussi, un jour, il est possible qu'un ambassadeur africain en Europe ici peut parler à un président européen à l'Assemblée nationale, d'ailleurs même? Est-ce qu'il est invité? Un d'abord.
Nous voilà sur les traces, parce que j'ai lu votre dossier de presse, les traces biographiques d'anciens ambassadeurs allemands qui ont été en service diplomatique en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Et donc vos interprètes, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'ils s'approprient ce statut d'ambassadeur de façon performative, c'est ça?
Oui. Dans la pièce, il y a des différents performeurs qui vont être ambassadeurs. Ça veut dire qu'on change à chaque moment qui joue l'ambassadeur.
Et alors, c'est quoi l'objectif de cette pièce?
C'est vrai que nous, on avait connu les deux ambassadeurs allemands en Côte d'Ivoire. Un était là quand c'était la crise en Côte d'Ivoire. Et par exemple, il avait pris une décision assez courageuse parce que normalement, quand ça devient chaud, les pays disent qu'ils retirent ses ambassadeurs. Mais lui, il a resté aussi dans le mois qui était difficile. Et il m'a même aidé que je puisse aller à des endroits politiques et avoir des interviews.
Mais vous qui êtes une politiquement incorrecte, je suis étonnée du portrait que vous faites des ambassadeurs qui en général n'ont pas bonne presse. On se demande quelle est leur utilité. On parle souvent du blabla diplomatique qui est en général très très stérile.
Bon, on a travaillé sur ceux qui étaient plus intéressants parce qu'il y avait des autres qui peut-être seulement leur dernière année de la retraite qui s'intéressent zéro pour le pays où ils sont et ils sont seulement organisés déjà la maison qu'ils vont construire en Allemagne. Alors il y a une grande différence de chaque interprétation, je dirais, de chaque ambassadeur. Mais bien sûr, c'est une position difficile parce que une ambassadeur, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Et si, dans des situations difficiles, il est courageux et il critique, parce qu'il est plus protégé que la population sur place, en même temps, on peut interpréter ça comme une arrogance qu'il a. Pourtant, c'est jamais qu'un ambassadeur africain va donner des conseils à des politiciens allemands ou français. Ça veut dire, cette question, on a beaucoup discuté sur ça et on avait des différents avis dans le groupe.
Ah oui.
Et là, par exemple, on a essayé de garder les deux opinions et il y a une scène qui est le clash des deux opinions.
Les ambassadeurs en Afrique, j'ai pas oublié que c'était qualifié d'opérette germano-africaine et justement, je crois comprendre qu'il y a un lien dans cette pièce chorégraphiée avec les films musicaux de Jacques Demy. Alors Jacques Demy, c'est les parapluies, oui. C'est les parapluies de Cherbourg. On est très très loin des parapluies de Cherbourg.
Oui, hein. On est très loin de ça. Mais la forme, ça veut dire que des textes sont chantés, même des dialogues sont chantés, parce que ça, c'était la spécialité, que c'est pas une comédie musicale chez Jacques Demy où on va chanter, après on va parler, mais même des dialogues, je vais aller acheter du pain, ça peut se chanter ou bien. Et ce principe a beaucoup nous plu.
Autre traversée au pays de Monika Gintersdorfer pour en sol majeur, ça c'est une pièce intitulée Nana, où est-ce que tu connais le bara ?
Alors d'abord, il y a la démarche de Nana, Nana provocante, Nana de la vie, tout. Et maintenant, voilà, je explique que Nana, c'est ça la Nana du trottoir, que tout le monde connaît, qui fait du succès.
Ouais, mais ça de toute façon.
Non, il est trop hier. On veut pas le côté franc, on veut le côté moufat.
Après Nana, on répète avec vous, Monika d'ailleurs. Voici Nana live.
Les gens se fatiguent, les mots. Moi, je m'exprime, mon corps. Parce que ça, sans même parler, le gars, il te suit dans les loges. Il veut savoir si tu peux faire ça au lit. Ça se vit. On parle pas de ça. On parle plus trop. Mais nous, on prend. Et puis demain, on avance.
Sur scène, Nana était nue avec une tranquille audace. Une simple gaze l'enveloppait. C'était Vénus naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Tout d'un coup, dans La Bonne Enfant, la femme se dressait, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous aurez reconnu un extrait du roman d'Émile Zola, Nana, et qui a inspiré votre pièce, puisque vous avez marié Nana à une réalité urbaine de la Côte d'Ivoire.
Oui, d'abord, c'était clair que dans notre team, il y a beaucoup de personnes des Côte d'Ivoire. Ça veut dire, pour nous, souvent, ce n'est pas que on choisit d'abord le sujet et après on choisit les personnes qui peuvent le jouer. Mais c'est d'abord les personnes qui sont là et on réfléchit quel sujet peut être intéressant pour nous.
C'est dans ce sens-là.
Et on avait commencé avec une pièce de Balzac et on a vu que cette époque, c'est assez riche pour nous comme groupe parce que aussi c'est le grand temps de la colonisation. Et de faire une relecture avec les regards des Ivoiriens sur cette littérature française. Et on avait pris un peu de goût qu'on a travaillé sur Balzac et là, on est tombé sur Zola.
Mais alors justement, quel est le regard ivoirien, on va dire, qui a été porté sur le roman de Zola, Nana ?
Que cette nécessité de gagner de l'argent et qu'est-ce que tu peux faire si tu viens d'un quartier précaire comme Nana ? Et après, on doit dire qu'elle est devenue une femme qui gagnait beaucoup de l'argent, capable de prendre l'argent avec des personnes importantes et politiques. Et nous, on a seulement dit, tout ça, c'est aussi une grande donne, une capacité que Nana a. Mais c'est Zola qui l'écrit et après, elle doit mourir. Il l'a condamnée à la mort très jeune. Et on a protesté un peu de ça parce qu'on pouvait aussi dire, ah, pourquoi ça pouvait être aussi une Nana qu'elle commence comme ça. Et après, avec l'argent qu'elle gagne, elle se transforme en une femme de business.
Donc la Nana ivoirienne sort victorieuse finalement. L'argent la tire par le haut. Évidemment, on entend le coupé décalé, car c'est presque une de vos signatures dans vos pièces chorégraphiées, Monika. Comment cette histoire de coupé décalé peut tellement vous influencer dans votre travail de création ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coupé décalé qui vous intéresse tant ?
Quand je suis allée à ma première soirée coupée décalée, je ne connaissais pas et personne ne m'a expliqué. Mais je voyais qu'il avait un lien très fort entre celui qui a le micro. Ce n'est pas forcément le chanteur, ça peut être aussi d'abord un animateur ou des animations chantées avec les danseurs. Et les deux encore, ils ont des côtes et des liens avec le public. Et comme souvent aussi dans le coupé décalé, il y a des mots codés, c'est pas tout de suite qu'on comprend tout. Mais pour moi, comme metteur en scène, j'ai trouvé ça très très intéressant comment la parole, le mouvement et les chants se combinent.
Lorsque vous posez le pied, en tout cas dans un pays, on a l'impression que vous ne la jouez pas du tout touriste, que vous vous immergez totalement dans le pays. Vous êtes presque ivoirienne, là. Quand je vous entends parler du coupé-décalé, j'ai l'impression que vous êtes une fille d'Abidjan.
Non, c'est que ça fait beaucoup d'années, non ? Comme oui. Je suis allée la première fois en 2002, et je dois dire que vraiment ça m'a intéressée beaucoup politiquement, et comme je suis avec des performeurs de Côte d'Ivoire, chaque jour, ça veut dire, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, on échange sur des sujets et on est liés. Et ça fait déjà maintenant très, très longtemps. Mmh. Voilà, mais on doit dire, ce n'est pas facile comme ça. Quand je suis en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui me connaissent. Mais pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis la blanche.
Vous êtes arrivée en Côte d'Ivoire en 2002, donc à un moment qui était difficile déjà pour le pays, mais très vite. Vous êtes tombée amoureuse d'une voix, ça va se passer sur Vibe Radio, une radio ivoirienne.
Est-ce que tu es mariée ?
C'est quoi le mariage d'abord ?
Est-ce que tu vis avec quelqu'un ?
Bien sûr, ça fait 15 ans que je suis avec Monica Dintestoffer.
D'accord. Que... Tu as des enfants, est-ce qu'il y a ?
Oui, j'ai deux filles.
Tu as deux filles ? Elles ont quel âge ?
3 et l'autre 6.
Elles vivent en Côte d'Ivoire ou en Allemagne ?
Allemagne.
Elles vivent en Allemagne. Oui. Est-ce que tu touches à la drogue ?
Bien sûr. Parce qu'il y a drogue, il y a drogue.
D'accord.
Balle, feuille, mm-hmm. Une plante comme... tu vois, feuille qui sort comme une âme, là. Qui sort comme manioc, là. Voilà, ça, je fume ça. Ça m'a beaucoup fait du bien.
Tu sais que c'est illégal ?
Melcon.
Mais tu sais que c'est illégal ?
C'est quoi qui est illégal ? Est-ce que le monde même est légal ?
Mmh.
Est-ce que la vie est légale ? Je te demande, quand Dieu a créé la terre, Dieu l'a-t-il déclaré légal ou illégal ? La terre, c'est illégal. Si Dieu savait que le ganja n'est pas bon, pourquoi il l'a créé ? Lui qui connaît tout ce qui est bon et mauvais.
Voilà un tout petit concentré de Eskeli qui était surnommé le roi du buzz en Côte d'Ivoire, on comprend pourquoi. C'était votre homme, Monica Gintersdorfer. Il s'est éteint en 2021. Comment vous présenteriez l'artiste qu'il était ?
Eskeli, j'ai vraiment d'abord écouté sa voix. Parce qu'avec un ami, j'étais dans un studio d'enregistrement et la porte de la cabine était fermée. Ça veut dire que je ne voyais pas la personne, j'ai écouté la voix. Et je lui ai écouté chanter. Et c'était incroyable. Et après, il est sorti de la cabine. Je ne sais pas, ses yeux brillaient, tout ça. Ça veut dire qu'il m'a impressionné des premiers moments. Mais après, j'ai aussi travaillé avec lui dans des pièces. Et il avait beaucoup le don de la parole. En même temps, ça lui intéressait la politique, la philosophie. Il était un grand du showbiz, bien sûr, un chanteur que tout le monde connaissait, mais il était aussi religieux, ça veut dire qu'il n'a jamais séparé tout ça. Il a toujours essayé de parler de tout à la fois et de le lier.
Vous diriez, parce que là, on l'entend, on a l'impression que sa marque de fabrique, c'est la provocation. Plus profondément, est-ce que vous diriez que c'est une colère politique qu'il y avait en lui et que vous aviez peut-être en commun tous les deux ?
Il n'avait pas seulement une colère, il avait beaucoup d'amour. Je pense que c'est beaucoup une personne qui peut unir des choses qui normalement restent séparées. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est surtout la politique, parce qu'en même temps, la vie quotidienne, ça l'intéressait beaucoup.
En tout cas, vous, Monica, et lui, comme vous êtes des personnalités qui ont... l'intention, je dirais, de dynamiter un peu la bien-pensance et de contourner peut-être le discours officiel, vous avez conçu une pièce autour de la CPI lors de l'incarcération de Gbagbo après la crise post-électorale de 2010-2011. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une crise qui vous a vraiment intéressé. Alors, comme je veux rentrer un peu vivante chez moi, évidemment, humour, hein, parce que tout va bien, bien sûr. Je vous posais une question toute légère. Est-ce que cette pièce que vous avez intitulée « La CPI », qui a été jouée d'ailleurs hein, à Hambourg, au Ghana aussi, mais pas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a été montée pour pousser un cri, vous diriez, ou pour expliquer de façon peut-être pédagogique, ce rêve que vous avez d'une démocratie universelle ?
On doit dire que c'est vraiment une série. Hein, parce
ah oui
que, oui, la première pièce sur la crise était déjà en 2008. Après, on a fait une autre, que c'est la fin du western, que c'est vraiment le temps 2010-2011.
La fin du western, vous dites.
La fin du western. Parce qu'une fois, un politicien a appelé ça un western, parce qu'un western, ça reste les deux rivales, et on va voir qui est le dernier qui est debout. Et on a fait une pièce sur ça. Et après, on a fait la CPI parce que Gbagbo et Blé Goudé étaient envoyés à la CPI. Ça veut dire qu'on a suivi le procès de 2008 jusqu'en... Ça veut dire qu'on devrait toujours actualiser la pièce. Et on a agrandi le sujet. Ça veut dire qu'après, on a aussi regardé le procès contre des personnes du Congo. On était des fous. Des heures de procès qu'on regarde à la maison. Où on est aussi parti à la CPI. Mais ça que je veux dire, on essaye de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Quand ça se passe, c'est pas tout de suite que tu arrives à analyser. Et là, on prend le temps de répétition pour discuter, pour analyser. Et souvent, dans la même équipe, on peut avoir des différents avis. Mais le message peut-être est qu'il y a toujours plusieurs points de vue et on devrait effacer aucune. Et aussi pas trop censurer les différentes positions.
En tout cas, la question de l'histoire, avec un grand H, la question politique est au centre, on dirait quand même, de pas mal de vos pièces, même s'il y a beaucoup de coupés décalés. Je ne sais pas si c'est le coupé décalé qui sert à faire passer les sujets sensibles. En tant que metteuse en scène, vous diriez, de culture germanique, est-ce que vous vous sentez, vous diriez, une responsabilité devant l'histoire, Monica ?
Oui, bien sûr. Je pense que chaque personne a une responsabilité. Ça veut dire la question de la responsabilité, c'est une très, très grande question. Bien sûr, il y a ceux qui étaient plus victimes de ça et ceux qui plus ont bénéficié de certains profits pour des crimes qui étaient commis avant, même s'ils n'ont pas commis. Ça veut dire que c'est des questions très compliquées. Qui peut assumer toutes ses responsabilités? Ça, c'est très difficile à faire.
Allez, je vous emmène une petite minute au bras d'un certain Jean Rouche sur les routes d'Accra, dans le Ghana, du milieu des années 50.
Tous les samedis et tous les dimanches, des cortèges parcourent les villes. Ce sont des Yoruba qui célèbrent un mariage. Ce sont des prostituées à Oussa qui font une manifestation contre la baisse des salaires. Ce sont les petites sœurs du Christ qui chantent leur foi dans les rues. Alors, devant ce bruit, devant ces fanfares, les hommes venus des calmes savanes du Nord doivent se réfugier dans les faubourgs de la ville. Et là, tous les dimanches soirs, ils se livrent à des cérémonies que l'on connaît encore très mal. Ils appellent les dieux nouveaux, les dieux de la ville, les dieux de la technique, les dieux de la force, les Hauka.
N comme nourriture terrestre.
Avec un extrait des Maîtres fous de Jean Rouche dont vous m'avez parlé, Monica Gintersdorfer. C'est un film qui a fait scandale auprès des Blancs et des Noirs en 1955. Et donc c'est un film qui fait partie de vos films de chevet à vous, Monica.
Oui, on a regardé assez de films de Jean Rouche.
Pourquoi?
On a commencé et quand on a vu un, on voulait voir le prochain et le prochain et le prochain. Même des films beaucoup moins connus comme Chasse au lion. Et il y a un très beau film qui se passe à Abidjan, Moi un noir, qui par exemple a ce système que les personnes qui sont filmées, après eux-mêmes, ils peuvent commenter le film. Ça, c'était super. Maintenant, l'extrait qu'on vient d'écouter, exactement ce film aussi, on a beaucoup discuté parce que c'est une cérémonie où ils s'approprient de les esprits de leurs colonisateurs. Et ce film est beaucoup apprécié. Un membre de notre groupe, qui lui-même est réalisateur du film allemand, pour lui, c'était un des films très importants. Pourtant, des membres ivoiriens aussi, ils ont dit « Mais, on est déjà colonisés ». Est-ce que maintenant, même là, il doit encore coloniser nos esprits? Maintenant, la locomotive ou le colonisateur même va entrer dans la religion traditionnelle. C'est ça qui était à nous, nos esprits, là où les colonisateurs n'étaient pas, encore ils vont entrer dans ça. Alors, on a beaucoup discuté aussi cette film.
Donc en fait, vous expérimentez votre pensée en vous rapprochant d'autres sensibilités. C'est important pour vous, par exemple, de voir Jean Rouch avec des Ivoiriens. Ce n'est pas la même lecture que si...
Oui, aussi, on ne peut pas généraliser. C'est aussi, si tu as 10 personnes dans la salle, ça ne veut pas dire que tous les Ivoiriens ont le même avis. Ça veut dire aussi, entre les Ivoiriens ou entre les Allemands, il y a des différents avis, non ? Mais oui, mais c'est très intéressant.
En tout cas, on n'est pas au bout de nos surprises avec vous et avec votre travail. Merci Monika Gintersdorfer de votre visite en sol majeur. Je vais vous laisser repartir en nous laissant la voix chantée de Eskeli avec Makana Gbashi, ce qui veut dire
je ne sais pas, c'est une featuring avec Debordo, un très beau morceau.
Merci Monika.
Ouais, Eskeli barre français, featuring DJ Debordo, Roland de Brengis, Douga Manaja Inter. Matinga langa na tenga musinga matenga miene miene batunga tema babu sheri wakima ko kumu kumu singa tinga langa mokama ngana ninga mpoho lele basi ope tatimo le grand David tiesko le congolais mangana tina jalousie ba wateke mama kumba mkama na singema ruki bandenga masinga yo lengi mati si la vie est un choix moi je choisis de vous
Au générique de cet en sol majeur consacré à Monika Gintersdorfer, une bonne louche d'indignation, de coupé décalé, très décalé, et des spectacles à voir, notamment au théâtre de la commune d'Aubervilliers jusqu'au 26 mars. Tout ça à retrouver en podcast ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. La semaine prochaine, on se retrouve avec un certain Florent Dabadie. À la semaine prochaine.